Hier matin, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation du bâtiment B du campus Solbosch de l'ULB, occupé depuis 6 semaines maintenant. On en parle avec Tiffany Afschrift. Elle est associée, fondatrice et managing partner d'Afschrift Tax and Legal, ainsi que professeure ordinaire émérite à la Solvay Business School. Lucie, vous l'avez rencontrée et voici votre échange.
Tiffany Afschrift, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associée fondatrice et managing partner d'Afschrift Tax and Legal et professeur ordinaire émérite à la Solvay Business School. Alors ce matin, les étudiants ont été évacués du bâtiment du campus Solbosch, bâtiment qu'ils occupaient depuis mai dernier. Tout d'abord, selon vous, il était temps que cette occupation prenne fin ?
Ah oui, là franchement, évidemment c'est la rectrice qui décide, mais elle avait une attitude un petit peu ambiguë, montrant qu'elle souhaitait qu'il parte, mais elle ne faisait absolument rien pour qu'il parte, et en montrant quand même une certaine solidarité avec leurs revendications. Alors c'est quand même beaucoup plus clair maintenant. Les bâtiments d'une université, c'est fait pour enseigner. Ça peut éventuellement servir à des rassemblements d'étudiants, mais ça ne doit pas durer des semaines et des semaines comme c'est le cas ici. Et en plus, la rectrice a parlé, paraît-il, de dégradation. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas normal que le patrimoine de l'université soit détérioré par des... On dit des étudiants, mais on n'est même pas sûr que ce sont en majorité des étudiants. Il y a probablement d'autres personnes aussi, tout comme quand on a évacué l'université de Columbia aux États-Unis, on a constaté que la majorité des occupants n'étaient pas des étudiants, mais étaient des militants seulement.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Cette poursuite de la mobilisation autour de cette question israélo-palestinienne qui enflamme à ce point les esprits, c'est difficilement explicable. Comment on explique que ça enflamme à ce point les esprits d'étudiants belges pour lesquels ça devrait être relativement éloigné de leurs préoccupations quotidiennes, disons?
Mais effectivement, c'est d'ailleurs vrai aussi pour des étudiants américains, et donc si on fait le total de tous ceux qui manifestent et qui occupent, ça ne sera jamais qu'une toute petite minorité, mais qui est très agissante. Et je trouve qu'il est tout à fait normal que des étudiants défendent des causes, qui défendent une cause pro-palestinienne, ça n'est pas mon choix, mais c'est leur droit. Par contre, on ne voit pas pourquoi on le fait avec une telle fureur, alors qu'il y a tellement d'autres causes qui sont nettement plus légitimes. Je ne sais pas, mais enfin, pour la cause des femmes, je pense que de combattre le régime iranien, ça me paraît beaucoup plus important, et d'ailleurs aussi le régime qui règne à Gaza, parce que c'est pas vraiment très très féministe. Excusez-moi. Donc je trouve un peu choquant, et ça pourrait donner raison à ceux qui disent que tout ça est manipulé, fabriqué. Je ne prends pas position, on n'a pas de preuves. Mais enfin, c'est un peu étonnant quand même qu'à Sciences Po Paris, à l'ULB, à l'Université de Gand et dans des universités américaines, on se manifeste seulement pour ça, alors qu'il y a tellement de malheurs qui arrivent dans le monde, me semble-t-il. Alors, soit il y a un mouvement d'antisémitisme, malheureusement, je crains que ça se confirme quand on voit un récent sondage, notamment. Soit il y a une certaine manipulation, et le fait qu'il y ait, comme on l'a vu à Columbia, une majorité de non-étudiants, et ça pourrait aller dans ce sens. Ici, j'ai appris qu'on avait pris les identités des personnes occupant les lieux. Si on révèle combien il y a d'étudiants parmi eux, ce sera peut-être une donnée intéressante.
Alors, vous l'avez mentionné rapidement, cette évacuation fait suite à un appel de la rectrice de la semaine dernière, du 18 juin, donc de la semaine dernière, qui a expliqué, face à leur refus persistant de quitter les lieux, nous avons été contraints d'introduire une requête au tribunal de première instance de Bruxelles pour mettre fin à cette occupation. Est-ce que la rectrice a eu raison de saisir la justice dans le cadre de cette affaire?
Ah oui, je pense que oui, elle est dans son droit. C'est la propriété de l'université. Sa responsabilité est de garder le patrimoine de l'université. Il y a des détériorations. Et puis, bon, elle a demandé à la justice. C'est une décision de justice qui amène à cette expulsion. Donc, il n'y a rien d'arbitraire à ça. C'est la justice qui a décidé.
Quel impact cette occupation et son évacuation ont-ils eu sur la communauté universitaire de l'ULB?
Alors, écoutez, je pense que ça dépend très fort dans quelle faculté on est, si on se retrouve dans les environs du bâtiment en question. Personnellement, je n'ai pas senti beaucoup d'approbation pour les... Pour les occupants, d'autant plus qu'ils se sont montrés quand même assez violents, en tout cas en violence verbale, qui se sont rendus coupables aussi, au moins de paroles, voire d'actes antisémites. Et bon, tout ça me paraît en contradiction formelle avec le principe du libre examen, qui est le principe essentiel à l'ULB et qui implique la liberté d'expression, et je crois que personne n'a réussi à aller leur parler, à échanger des arguments. Et là, je pense que c'est tout à fait en contradiction avec les règles de l'ULB.
Alors, ce week-end également, les étudiants ont organisé un festival pro-palestinien, ou en tout cas, un festival pro-palestinien était organisé sur le campus de Solbosch, de l'ULB. Des images ont circulé ensuite sur les réseaux sociaux, montrant des murs tagués avec « Boycott America, From the River to the Sea ». Annie Melchose a dénoncé la semaine dernière des dérives. Elle a également dénoncé des dégradations. C'est votre avis également, j'imagine?
Ben écoutez, oui, s'il y a des dégradations, je pense qu'on ne peut absolument pas accepter que ça soit dégradé. D'ailleurs, je pense que les responsables, si on parvient à les identifier, pourront être condamnés à rembourser les dégâts.
Alors aujourd'hui, on est quand même à la fin de l'année universitaire. Les étudiants vont bientôt partir en vacances jusqu'à la rentrée. Quelles sont les perspectives d'action future pour les étudiants mobilisés qui ont dit qu'ils poursuivraient leur mobilisation tant que leurs revendications n'auraient pas été satisfaites?
Mais D'abord, je ne comprends absolument pas leurs revendications. Alors, qu'ils aient l'opinion qu'ils veulent sur le conflit entre Israël et le Hamas, c'est leur affaire. Mais de toute façon, ça n'est pas l'ULB qui a le pouvoir de décider quelque chose dans ce conflit. Donc, tout ce dont ils se plaignent, l'ULB ne peut rien y faire. Alors, tout ce qui reste comme revendication, qui est manifestement artificielle, c'est de demander de mettre fin à des programmes de collaboration entre l'ULB et des universités israéliennes. Et là, la rectrice a eu le tort de dire qu'elle était prête à céder à ce niveau-là. Alors, je pense qu'aucun des manifestants ne sait de quoi il s'agit, quels sont les programmes. Ça n'a été annoncé nulle part. S'il y en a, ce sont des programmes d'échanges scientifiques. Et entraver des échanges scientifiques entre qui que ce soit, je suis désolé, c'est jamais positif. Et demander qu'on mette fin à des programmes seulement avec des universités qui sont en Israël, c'est purement discriminatoire. Mais il n'y a pas de justification à cela. C'est une discrimination en fonction de la nationalité. Donc c'est pas acceptable dans un système comme le système belge où on interdit les discriminations en fonction de la nationalité. C'est assez inconcevable que ça vienne de ce côté-là. En plus, que eux veulent créer des discriminations, et ça semble confirmer qu'il y a une bonne part de leurs véritables exigences qui sont la conséquence des conceptions antisémites, une fois de plus.
Alors, il y a une partie évidemment de la population universitaire, enfin du corps académique qui s'est soulevé également contre ces boycotts-là et contre cette revendication de rupture totale avec les universités israéliennes. Est-ce que c'est votre avis également?
Mais moi, je pense qu'il faut évidemment maintenir. Maintenir les contacts avec les universités israéliennes et avec Israël en particulier. Enfin, soyons quand même sérieuses. Les universités israéliennes sont dans tout le Moyen-Orient pratiquement les seules où il y a moyen d'avoir une liberté d'expression, où il y a moyen de bénéficier d'un enseignement. Même si on est d'origine arabe, même si on est musulman, en Israël, ça n'existe pas de discrimination sur cette base-là. Je voudrais bien voir un autre pays de la région où c'est comme ça. Alors, si je pense que s'il y a un pays avec lequel il faut garder les contacts, c'est Israël, évidemment.
Tiffany Avstris, je rappelle que vous êtes associée fondatrice et managing partner d'Avstris Tax et Legal et professeure ordinaire émérite à la Solvay Business School. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
C'était avec plaisir. Au revoir.